l'économie et les activités. L'élevage, la chasse, l'agriculture et la cueillette des fruits sauvages fournissent l'essentiel des ressources alimentaires. En ce qui concerne la pêche, compte tenu de la taille des poissons capturés, par exemple le mérou, la dorade et le mulet, des techniques de capture élaborées impliquant l'usage des filets de bon maillage ou de lignes armées d'hameçons robustes devaient être utilisées. L'agriculture était basée sur la culture des céréales et des légumineuses telles que les lentilles. À ces ressources produites s'ajoutaient celles qui étaient fournies par les arbres sauvages et étaient cueillies. Pistachiers, figuiers, oliviers et pruniers. Tenus à l'extérieur du village, étaient élevés des moutons, des chèvres et des porcs. Les Chypriotes néolithiques pratiquaient aussi la chasse des daims, cependant les méthodes de chasse sont inconnues. L'absence de pointes de flèches implique l'existence d'armes rudimentaires, par exemple des hampes en bois, dont la pointe est durcie par le feu, et des pièges. La découverte par la mission archéologique française de grains de céréales carbonisés, blé amidonier, engrain, épeautre, orge, ainsi que de légumineuses, démontre qu'à part la viande et le pain, le régime alimentaire des habitants de Quiroquitia comprenait le haricot, le petit pois, le pois chiche et les olives, cultivées dans la vallée avoisinante. La culture néolithique à céramique de Quiroquitia est marquée par une interruption soudaine au milieu du 6e millénaire. Le village est abandonné pendant une très grande période, près de 1000 ans. L'établissement est réoccupé au 5e millénaire avant Jésus-Christ. En même temps que Quiroquitia, la culture néolithique acéramique chypriote est développée et poursuivie à Tinta de Calavasos, à Trouli, dans le district de Kyrenia, à Petra Toulimniti et au lieu-dit Castro de Carpas, près du Cap Andreas. Pourtant, tous les villages précéramiques de l'île ont soudainement été abandonnés. Après cette période d'abandon, le site de Quiroquitia est réoccupé au cours du 5e millénaire. Il s'agit de la culture néolithique chypriote, la dite période néolithique 2 ou néolithique céramique qui dure jusqu'en 3900 avant Jésus-Christ. Cette nouvelle phase culturelle est surtout représentée par l'établissement de Sotira et à part Quiroquitia, elle est présente dans les couches supérieures à Aios Epictitos, Brissi, dans le district de Kyrenia, à Philia Drakos et à Calavasos, site A. L'architecture des maisons évolue sensiblement au cours du néolithique céramique. Pourtant, à Quiroquitia, aucune trace architecturale de cette période n'est préservée. La vaisselle en pierre est remplacée par les vases rouges à décor peigné, tennisti, découverts notamment sur le site de Sotira. Les vases les plus représentatifs sont les grands récipients à lait munis d'un bec verseur semi-circulaire. En même temps, la fabrication de vases en andésite se poursuit conformément à la pratique acéramique. Les rituels funéraires, l'artisanat, l'agriculture et l'élevage ne présentent pas de grands changements, tandis que le niveau général, économique et culturel des habitants de Quiroquitia est à peu près le même que celui des habitants qui avaient abandonné le village 1000 ans auparavant. Aucune trace architecturale de ce nouvel établissement n'est préservée. Les données dont disposent les archéologues ne sont pas suffisantes pour expliquer son brusque abandon. Les analyses palynologiques ne laissent apercevoir aucun changement des conditions climatiques qui auraient détruit l'équilibre écologique de l'île et entraîné une diminution dramatique des ressources alimentaires. Aucune trace de catastrophe naturelle, d'épidémie ou d'un abandon à la suite d'actions ennemies. L'incertitude qui marque le début du néolithique précéramique chypriote en marque aussi la fin. En effet, aucune trace n'annonce l'émergence soudaine d'une culture si bien structurée et si différente, sur plusieurs aspects, des autres cultures connues du continent d'Asie mineure. Toutefois, un faisceau d'indices concourt à indiquer l'existence d'un lien entre Chypre et le continent, à supposer que la néolithisation de Chypre puisse résulter d'une colonisation qui implique la traversée d'un bras de mer. D'ailleurs, on sait que déjà depuis le Paléolithique supérieur, l'homme de la Méditerranée orientale maîtrisait l'art de la navigation. Le premier indice est la présence sur les sites chypriotes de matières premières, par exemple la cornaline et l'obsidienne, étrangères à l'île et donc importées. Le second est la faune qui est composée d'espèces nouvelles sur l'île. Le daim au bois plat, le mouton, la chèvre et le porc, mais aussi le chat, le chien et le renard, qui remplacent les hippopotames et les éléphants nains qui peuplaient l'île au Pléistocène. Sans doute, les daims et les porcs sont théoriquement capables de traverser le bras de mer qui sépare l'île du continent. Mais cette performance paraît plus improbable pour les moutons et les chèvres, et encore plus pour les chats. C'est encore l'assemblage de céréales et de légumineuses que l'on trouve sur les sites chypriotes et dont on est en droit de supposer qu'il a été introduit sur l'île. Et même si les formes sauvages de certaines d'entre ces plantes existaient auparavant à Chypre, il n'en reste pas moins que ce sont les formes domestiques qui ont été retrouvées sur les sites. C'est-à-dire que, si ce ne sont pas les plantes elles-mêmes qui ont été importées sous une forme domestique, c'est du moins la pratique des manipulations amenant à leur domestication qui l'a été. Ce sont enfin l'usage de décorations murales peintes, la connaissance de la technique du polissage de la pierre et de celle du tissage qui replace Chypre dans un contexte culturel général. Si ces indices parlent en faveur d'une colonisation éventuelle de l'île, ils sont néanmoins insuffisants pour reconnaître la base de départ des colonisateurs, ou du mieux, ils ne fournissent que des indications peu précises. Ainsi, à supposer que l'habitat naturel de Dama mesopotamica, sous-espèce à laquelle ses caractères morphologiques font appartenir le daim chypriote, n'ait pas subi au cours du temps de modifications importantes, c'est vers le Levant en général que renvoie l'importation sur l'île de ces animaux. Il n'en reste pas moins que cette insertion de Chypre dans un contexte général permet, en admettant que l'apparition du néolithique acéramique sur l'île se situe au 9e millénaire, de comprendre l'appropriation de ce nouveau territoire comme un épisode, en milieu insulaire, de ce qui est appelé l'exode néolithique, à côté de l'occupation de la zone méditerranéenne à climat tempéré, des bords désertiques de l'Euphrate, des oasis intérieures de Syrie et de Jordanie, et du Sinaï. Entrons maintenant dans le site archéologique. D'abord, on trouve le bureau du gardien, où l'on peut obtenir tout le matériel informatif disponible, ainsi qu'un guide qui facilite notre déplacement sur le site. À environ 100 mètres, on peut observer les habitations circulaires, une partie du mur d'enceinte et un des accès au village. Ces structures se trouvent dans l'état qu'elles présentaient lors de leur découverte au sommet de la colline. À côté, se situe la rivière de Maroni. On emprunte la rampe pour accéder au site archéologique accroché à flanc de colline. Le site est divisé en 4 zones, un aménagement qui ne correspond pas aux données du néolithique. La zone A renferme à droite les vestiges du mur d'enceinte qui grimpe jusqu'au sommet de la colline. En outre, on peut voir les bases des unités d'habitation circulaire. Au centre, on distingue une grande construction, IA, dont le diamètre extérieur est de plus de 8 mètres. Deux piliers massifs en pierre supportaient une soupente. Il faut noter que 4 constructions semblent être construites l'une sur l'autre, ce qui indique leur occupation continue. Quelques habitations abritent un foyer encore visible au centre, destiné à faire cuire les aliments. En continuant sur la colline, on avance le long de la zone B, où on peut voir les vestiges de la première construction, XX, identique à l'habitation précédente. Elle est très grande et renferme 2 piliers en pierre. De plus, on peut distinguer 2 meules placées sur un fondement semi-circulaire. L'habitation XXIX est munie d'une aire de battage circulaire pavée, dont la présence indique les activités des habitants. Un peu plus haut, on entre dans la zone C, où les premières constructions ne présentent aucune particularité. Le département des Antiquités a effectué quelques interventions afin de protéger les anneaux en briques du mur des habitations. Le mur de l'habitation XLV était composé de 3 anneaux concentriques, tandis que les 2 piliers sont disposés de façon différente. 7 sépultures d'adultes ont été retrouvées dans la même unité d'habitation. Dans l'une des sépultures, l'homme enterré tenait 10 outils en os de sa main droite. L'occupation continue des habitations est aussi confirmée par la construction X, L, V, I, I, qui renferme 8 niveaux de sol. Après la construction X, X, I, 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 commence la zone D, où on peut voir l'extension de l'établissement. Les vestiges les plus impressionnants de cette zone sont ceux d'un des dispositifs d'accès au village. Il s'agit d'un dispositif unique en son genre, tant à Chypre qu'au Proche-Orient. On a déjà vu une réplique du dispositif près de l'entrée du site. Il faut aussi mentionner la construction S, qui semble avoir été occupée pendant une longue période. On peut aussi y distinguer les restes peu visibles des décors muraux. Bon nombre d'estrades placées sur le site offrent une vue panoramique sur le village et permettent aux visiteurs de prendre des photos. Après la visite du site, les amateurs de randonnée peuvent aussi traverser le sentier qui mène au village de Hirokitia. Le point de départ se trouve en direction du village, juste après l'aire de stationnement, en face de la sortie du village de Tokni et des églises d'Aios Fanourios et d'Aios Nektarios. Le degré de difficulté du sentier est moyen, catégorie 2, en raison de la topographie particulière du terrain. Changement de dénivelé soudain, descente et ou montée, et ou trajet sur un terrain étroit ou accidenté. Le revêtement de la route est régulier et en bon état sur les 800 premiers mètres. Les derniers 800 mètres se parcourent sur une piste accidentée, étroite, escarpée et non goudronnée. La longueur du trajet est de 2 km.